J'aimerais parler ce matin sur confronter les géants. Dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 41 à 54. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, des géants se dresseront devant nous. Si David était resté tranquillement à garder ses brebis, il n'aurait jamais confronté des géants. Mais Dieu ne nous laisse pas tranquilles. Certains imaginent que la vie chrétienne, c'est comme une retraite. Donc il y a deux possibilités quand on est face à ces géants. La première possibilité, c'est la peur. C'est l'attitude du peuple, alors qu'à un moment donné, le peuple entendait ce géant Goliath qui lançait ce défi, « Qui viendra se battre contre moi ? Qui viendra lutter contre moi ?» Personne n'osait relever le défi. La peur avait saisi le peuple, et dans ce cas-là, il n'y a pas de victoire. Il y a chacun qui reste sur ses positions, et on est dans l'attente. Mais David a choisi une autre attitude, qui est la confrontation, et c'est sur celle-ci que je veux nous amener ce matin, confronter les géants. C'est l'attitude de David, une attitude de foi. Effectivement, lorsqu'on regarde les données statistiques, on pourrait dire que c'est disproportionné. Sur le papier, on regarde Goliath, il fait presque plus de 3 mètres, il a une armure, il a une lance, il a un énorme bouclier, il est puissamment armé. On peut dire qu'il va facilement remporter la victoire. De l'autre côté, il y a David avec une simple fronde et une pierre. Il a pris quelques pierres avec lui, mais c'est disproportionné. Dieu nous place dans des combats disproportionnés. L'ennemi en face a plus d'armure, plus de possibilités. Souvent, nous n'avons pas grand-chose. Mais la différence, c'est que David y va avec l'Éternel, avec le Seigneur, pour nous, Seigneur Jésus, qui est notre Dieu. Et c'est ainsi que David va remporter la victoire. Donc la victoire ne dépend pas de nos armes, elle ne dépend pas de nos capacités, mais nous serons souvent mis dans des combats disproportionnés. Vous voyez, je parlais d'Abraham tout à l'heure. Abraham, il a eu un défi disproportionné. À l'âge de 75 ans, Dieu lui dit, va quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, et je te donnerai une descendance nombreuse. Tu auras de ton enfant qui naîtra, il y aura des multitudes de peuples. Et sa femme a 65 ans, lui, il en a 75, et il n'y a pas de possibilité matérielle pour eux d'avoir des enfants. C'est impossible. Situation impossible. Dieu dit à Abraham, je te donne le pays de Canaan. Mais quand il lui donne le pays de Canaan, en fait, le pays est habité par des Cananéens. Mais Dieu lui dit, je te donne le pays. Oui, mais Seigneur, il y a des Cananéens dans le pays. Et donc, il va falloir relever ce défi de posséder le pays qui est déjà habité. Par exemple, Jésus, lorsqu'il voit une foule de 15 000 personnes, il dit à ses disciples qui n'ont que 5 pains et 2 poissons, « Allez-y, nourrissez la foule. » C'est disproportionné. Et les disciples lui font remarquer, « Mais Seigneur, que pouvons-nous nous faire avec 5 pains et 2 poissons ? Nous ne pourrons pas. » Donc les défis sont disproportionnés. Mais nous avons le miracle qui prend place, c'est Jésus qui va prier, et les pains et les poissons vont se multiplier. Donc si nous voulons faire la volonté de Dieu, il va y avoir des défis à relever, il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des oppositions. Et il y aura toujours des gens qui vous diront « c'est pas possible ». C'est matériellement, vous n'y arriverez pas. Vous n'avez pas assez d'argent. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Et si David avait écouté le peuple, il ne serait pas allé confronter Goliath. Si David avait écouté le roi Saül, le roi lui a dit d'ailleurs « tu ne peux pas y aller. Tu es trop jeune, lui c'est un homme de guerre, lui il est vaillant, toi tu ne peux pas ». S'il avait écouté toutes ces paroles de découragement, il aurait échoué et il n'aurait pas confronté le géant. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est les paroles de Goliath. Voilà, si la maman du petit peut le prendre, s'il vous plaît. On évite que les enfants circulent devant. Hein. Vous le gardez avec vous, c'est gentil. Alors, les paroles de Goliath, vous les trouvez à partir du verset 41. Goliath, ici, c'est l'image de l'adversaire, du diable. La première chose que je vois, c'est qu'il s'approche de David. La plupart des chrétiens croient que maintenant qu'on est chrétien, il n'y a plus de problème. Mais en réalité, le diable, il continue à attaquer. Le diable s'est approché de Jésus pour le tenter. Le diable, il continue à faire ses manœuvres, sauf que nous avons le Seigneur avec nous. Mais néanmoins, il continue à attaquer. Et il s'est approché de David pour l'attaquer. De même que le diable s'est approché de Jésus pour le tenter. Et nous pourrons dire que le diable aussi cherchera à nous faire chuter d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il faut être prêt. Par exemple, Il a poussé Jésus à accomplir un miracle vain. Il nous pousse à faire des choses vaines. Il lui a dit, transforme ces pierres en pain pour que tu puisses manger. Un miracle vain. Il nous pousse à faire des choses en dehors de sa volonté. Il a placé Jésus au sommet du temple et lui a dit, jette-toi en bas et des anges viendront à ton secours. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il le pousse à faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Et il essaiera de le faire pour nous. Il nous pousse à aimer le monde et les plaisirs du monde plus que Dieu. Ça, c'est une réelle tentation. Il a mis devant Jésus les royaumes de la terre et leur gloire. Et il a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus a rejeté ces propositions. Mais les plaisirs de la terre, c'est une des tentations du malin. Et il nous pousse vers les choses du monde. Alors nous devons veiller et prier, car même des chrétiens très affermis, je pense à Démas dans l'Écriture, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10, il est dit que c'était un compagnon d'œuvre de Paul, donc un serviteur de Dieu, mais à cause de l'amour pour le monde, il a quitté l'apôtre Paul. Je vous lis dans la parole vivante, « Car Démas m'a abandonné, le monde présent a gagné son cœur. » Le monde présent a gagné son cœur. Voilà ce qui s'est passé. Et nous parlons là d'un croyant qui était un collaborateur de l'apôtre Paul. Et vous vous rendez compte combien le diable il a séduit cet homme pour le détourner de son ministère et l'entraîner dans le péché. C'est dramatique. Mais cela nous montre que nous devons veiller et prier. Le texte dit que Goliath s'approche peu à peu de David. Vous voyez la tactique du diable ? Il va s'approcher peu à peu. C'est-à-dire, sa devise c'est lentement mais sûrement. Il essaye de gagner du terrain, il essaye d'influencer un petit peu davantage, un peu plus que l'année précédente, un peu plus d'emprise. Par exemple, avant, ce chrétien, il priait, il ouvrait sa bouche, il louait Dieu, et puis petit à petit, il ne prie plus. Un petit peu de terrain gagné. L'ennemi, il essaye toujours de gagner un petit peu de terrain. Et puis, avant, il était motivé pour servir, il était engagé avec Dieu, et puis aujourd'hui, il ne fait plus rien. Il s'est retiré, il s'est mis en retrait. Il essaye de gagner un petit peu. Mais c'est là qu'il faut réagir, frères et sœurs. Et ne pas se laisser grignoter par l'adversaire qui, peu à peu, lui, il veut envahir parce qu'il veut tout pour lui. Mais il faut secouer cette léthargie, il faut secouer la mort spirituelle et dire, mais Seigneur, je me consacre à toi, Seigneur, je réalise que je me suis éloigné, maintenant je reviens dans ta présence et je veux reprendre ma place et je veux te servir et je veux prier et je ne veux pas que le diable me tienne la bouche fermée et maintenant je réagis. Si nous ne réagissons pas, ben lui il continue à s'avancer, il continue peu à peu, ça ne sera pas en un mois, ça sera peut-être en 2 ans, ça sera peut-être en 5 ans, mais lui va continuer son travail jusqu'à contaminer la personne pour qu'elle s'éloigne de Dieu. Donc nous savons que nous sommes dans ce combat, David le voit s'approcher peu à peu, mais voyez, il est vigilant et il ne va pas se laisser dominer. Deuxième chose que l'on voit chez l'adversaire, alors dans le premier point, c'est les paroles de Goliath. On voit premièrement qu'il s'approche. Deuxièmement, il observe David. Et le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous parle de ce lion rugissant. Il est un petit peu en train d'observer. 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobre, dit Paul, votre adversaire, il est clairement désigné, c'est Satan, le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ici, le verbe « rôder » signifie « tourner autour ».« Tourner autour ». Il est en train d'observer s'il n'y a pas un chrétien qui est un peu plus faible que les autres, peut-être qui est dans l'amertume, peut-être un chrétien qui est blessé. Vous savez que les lions, ils attaquent en priorité la proie qui est blessée. Celle qui va s'échapper le moins vite. Et donc, il va la saisir en priorité puisqu'elle est plus fragile. Et donc, le lion, il va chercher parmi les croyants bien celui qui est peut-être en colère. On vous a dit une mauvaise parole, vous êtes déçu, vous êtes amer par rapport à l'Église. Vous êtes amer par rapport à un frère, une sœur, par rapport au pasteur, par rapport aux anciens. Et ainsi, il va saisir l'opportunité de voir ce chrétien faible. Et comme il est en train d'observer, il a vu une situation de fragilité et il cherche qui il pourrait dévorer dans cet instant-là. Il attend toujours ce bon moment pour attaquer. Troisième élément, toujours dans les paroles de Goliath, c'est le mépris ouvert. Il méprise, il dit Il est dit au verset 42, il le méprisa, donc Goliath méprise David en le voyant. C'est un simple enfant qui vient avec un bâton, moi je suis un homme de guerre. Le diable ne connaît aucune compassion. Il est animé d'une folie destructrice. Quand on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit que Hérode, par exemple, a été inspiré par le diable lorsqu'il a dit, à la naissance de Jésus, « Faites périr tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. » Ça, c'est vraiment diabolique. C'est diabolique comme pensée. « Faites périr tous les enfants de moins de 2 ans. » Comment on peut prendre une décision pareille? C'est vraiment d'une inspiration mauvaise. Et cette inspiration, elle agit dans le monde. Vous voyez, par exemple, Hitler, qui a pris le pouvoir en Allemagne, il a fait tuer plus de 6 millions de Juifs. Comment est-ce possible? C'est une inspiration satanique qui pousse à faire des choses pareilles. C'est au-delà de l'humain, c'est au-delà de l'imaginable. Le diable, lui, il n'a aucune compassion. Il veut la mort, il veut la destruction. Les enfants, les jeunes, les adultes, tous, il veut les détruire. Le diable méprise tous les êtres humains, comme il méprise ici David. Et particulièrement, il méprise les croyants. Il méprise David parce que c'est un croyant. Pourquoi il nous méprise? Parce que le diable, il voit la présence de Christ en nous. Nous avons quelque chose de plus que le monde n'a pas. Nous avons Christ en nous. Paul le dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Il annonce, il y a le mystère de l'Église, caché de tout temps, mais qui est révélé pour nous les croyants. Et il dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et quand le diable vous voit, il voit Christ en vous. Et c'est pour ça qu'il méprise et qu'il rejette et qu'il attaque, parce qu'il ne supporte pas l'œuvre de Dieu. Mais nous devons tenir ferme face au tentateur. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et puis enfin, il y a la malédiction dans ces paroles. C'est au verset 43. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? C'est une des activités principales du diable. Il est en train de maudire, de semer des malédictions. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il accuse les croyants jour et nuit. Jour et nuit. On a un exemple comme ça dans l'Ancien Testament, c'est Balaam. Balaam, c'était un roi païen. Il a vu que le peuple d'Israël arrivait dans le pays et il s'est dit, oulala, je vais convoquer un prophète pour maudire ce peuple. Il a appelé un faux prophète qui s'appelait Balak. Et il a donc fait monter Balak sur une montagne et il lui a dit, maudis-moi ce peuple. Et à chaque fois que Balak voulait maudire le peuple, en fait, Dieu mettait des paroles de bénédiction dans sa bouche. Il n'arrivait pas à maudire. Il commençait pour vouloir maudire, mais Dieu mettait des paroles de bénédiction. Alors Balaam l'arrête et lui dit, arrête. Va dans un autre coin, et là, maudit le peuple de ce côté. Et à chaque fois qu'il essaye de maudire, des paroles de bénédiction. Et ça a recommencé 3 fois, 4 fois. Impossible de maudire le peuple. Et le roi lui dit, mais au moins si tu ne le maudis pas, au moins ne le bénis pas. Vous voyez, Dieu avait détourné sa bouche pour dire des paroles de bénédiction. Balak dit ceci, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, mais c'est Dieu qui est en train de parler à travers sa bouche, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Il y en a qui vont vous maudire, il y en a qui vont vous maltraiter. Ils feront des projets même pour vous évincer. Ils font tout pour prendre votre place. Ils sont en train derrière votre dos de faire des plans, des projets. Mais rappelez-vous ce verset, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Les plans des hommes, ils s'effondreront, mais le plan de Dieu, il continuera. Notre vie, elle est entre les mains de Dieu. Et la Bible dit quoi? Elle dit que nous sommes bénis. Nous ne sommes pas maudits, frères et sœurs. Nous sommes bénis. Il y en a un qui nous maudit, c'est l'adversaire. Il y a peut-être des gens qui nous maudissent. Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce matin, nous pouvons dire, je suis béni en Christ dans les lieux spirituels. Il y en a qui me maudissent peut-être. Mais en tout cas, je sais que je suis béni. Et la bénédiction de Dieu, elle est plus importante que la malédiction des hommes et la malédiction du diable. La bénédiction de Dieu est la plus puissante, frères et sœurs. Rappelez-vous ceci, je suis béni. Je suis en Christ, alors je suis béni de toute bénédiction spirituelle. David, quand il confronte Goliath, il sait qu'il est béni. Il sait que Dieu est avec lui et que la victoire va être remportée. Maintenant, regardons les paroles de David. J'ai, dans un premier temps, souligné les paroles négatives de Goliath. Verset 45. Comment David réagit ? Première chose que David fait devant toutes ces malédictions, ces paroles méchantes auxquelles nous sommes aussi confrontés, il commence par élever le nom de Dieu. Au verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as. » Il commence par élever le nom de Dieu. Ça nous parle de la louange, de l'adoration et de glorifier Dieu en toutes circonstances. Il y a une réelle puissance dans le nom de notre Dieu, et particulièrement dans le nom de Jésus pour nous qui sommes chrétiens. Il y a une puissance qui libère. Une fois, j'étais en entretien avec une personne, dans mon bureau, à l'église, et on avait terminé l'entretien, et on termine par la prière. Et au moment où je termine la prière, le Saint-Esprit met dans mon cœur de faire prononcer à la personne le nom de Jésus. Alors je lui dis « Dites Jésus ». Et la personne dit « Jésus ». Il ne se passe rien. Alors je lui dis « Dites encore Jésus ». Jésus, 3 fois, 5 fois, et 6 fois. Et puis je ne sais pas, je suis poussé à lui faire répéter le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Mais peut-être la 10e ou la 12e fois qu'elle a prononcé le nom de Jésus, il y a eu un cri qui est sorti. Elle a renversé le bureau, jeté le téléphone, et elle s'est jetée sur moi pour me mordre. En fait, il y avait un démon qui se manifestait. Le nom de Jésus, en fait, est tellement puissant qu'il a manifesté un démon qui a réagi. La seule prière que j'ai eu le temps de dire, c'est « Au nom de Jésus !» Et comme elle allait me mordre, sa mâchoire s'est restée bloquée. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut arrêter une épreuve pareille. Vous voyez, ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas une explication très scientifique. La seule prière que j'ai pu faire, c'est « Au nom de Jésus !» Mais ne serait-ce que quand j'ai prononcé le nom de Jésus, clac, sa mâchoire s'est bloquée. Elle ne pouvait plus mordre. Gloire à Dieu. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Peut-être vous n'aurez pas le temps de faire une longue prière. J'ai ce témoignage d'une personne qui était en voiture et qui, à un moment donné, a été confrontée à... Donc, elle est sur le point de faire un accident. Elle a dit « Au nom de Jésus !» Et la voiture s'est rétablie. Elle n'a pas eu le temps de faire une longue prière. Mais des fois, vous n'aurez juste qu'à prononcer le nom de Jésus. Et il est puissant, ce nom. Rappelez-vous-en. Ça vous sera peut-être utile. Et ce moment-là, dites-le de tout votre cœur et de toute votre force, le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, et c'est ce que David a compris. Il élève le nom de l'Éternel. Verset 46, il proclame déjà la victoire alors que le combat n'a pas commencé. Il n'y a que les chrétiens pour faire des choses pareilles. Il donne des paroles d'autorité. Il dit, mais moi, je vais te vaincre. Verset 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. J'abattrai, je te couperai la tête. Vous voyez, il n'a même pas commencé, c'est déjà fait. Alléluia. Ça, c'est les chrétiens. Nous sommes dans la victoire de la foi. Nous n'avons pas commencé le combat, mais nous proclamons déjà que la victoire est garantie. La victoire est assurée. Il a compris ces choses. Il ne va pas se demander, est-ce que je vais gagner, est-ce que je ne vais pas gagner. Il sait qu'il a déjà gagné parce que Christ est en nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà comment il voit les choses. Il ne voit pas les choses d'une manière humaine, voyez. S'il voyait les choses d'une manière humaine, il ferait demi-tour. Mais il est inspiré par l'Esprit, il est rempli de Dieu, et en fait, il voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Vision de foi. Et enfin, verset 47, il met en avant la foi. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. La victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Tout ça, c'est dans la foi qu'il prononce ses paroles. Car la foi, c'est finalement la seule chose que Dieu nous demande. La foi produit des œuvres. La foi nous entraîne dans la victoire. La foi est active, en fait. La foi, par exemple, nous permet de saisir les promesses de Dieu. Mais Dieu nous demande de croire et ensuite d'obéir à sa parole. Si nous ne croyons pas, si notre foi n'est pas active, si elle est tellement endormie et passive, alors nous n'aurons pas ces paroles de foi et nous ne saisirons pas les bénédictions par la foi. Je termine avec un dernier point. C'est le grand combat de la foi, parce que il ne suffit pas de proclamer la victoire, il faut maintenant saisir les armes et combattre. Et c'est ce que va faire donc David. Il a d'abord le zèle. Voyez, le texte dit qu'il court, au verset 48. Il courut sur le champ de bataille. Ça, c'est le zèle de l'Évangile. Le zèle que Dieu nous donne au combat. Dans Romains chapitre 10, verset 15, Paul dit « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Ils sont beaux les pieds. Pourquoi il parle des pieds ? Parce qu'ils vont courir de lieu en lieu pour annoncer cette bonne nouvelle. Ils vont aller de lieu en lieu. Et ils vont courir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont zélés. David est rempli de la foi et il est zélé. Qu'est-ce qui nous rend zélés ? Qu'est-ce qui nous motive ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est les choses du monde ? Est-ce que c'est le sport ? Est-ce que c'est cette série télévisée ? Est-ce que c'est ce chanteur ? Non. Pour nous, ce qui nous motive, c'est Dieu. Ce qui nous rend zélés, c'est la présence de Dieu. C'est les combats spirituels, c'est l'œuvre de Dieu. Voyez, quand l'amour pour Dieu diminue, le zèle pour le jeûne et la prière diminue. Le zèle pour le service diminue. Mais l'amour pour le monde augmente. Donc nous devons lutter contre ces choses. Être comme David. David est zélé pour les choses de Dieu. Il y a un service à accomplir, je me porte volontaire. Il y a quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu, voilà, je suis présent, je suis disponible. C'est ça le zèle. Mais Dieu désire que nous soyons zélés, que nous courions dans son œuvre. Par contre, le diable va tout faire pour vous empêcher d'agir, pour vous éteindre le feu. Alors soyons zélés pour les choses de Dieu. Nous devons courir. C'est Paul qui dit que la vie chrétienne, c'est une course. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, moi je cours. Dans ma vie chrétienne, je cours vers le but. Je cours vers les choses de Dieu, je cours vers les activités, le service, être disponible, la prière, le jeûne, le combat spirituel. Je cours vers ces choses-là pour être utile dans l'œuvre de Dieu. Mais à quoi est-ce que nous courons ? Des fois, quand on termine le culte, j'en vois qui courent vers la sortie. Je vous assure, j'ai pas le temps d'arriver dans le hall, ils courent vers la sortie. Vers quoi nous courons ? Est-ce qu'on n'a pas le temps ? Est-ce qu'on est toujours en train de courir vers des choses du monde ? Non. Prenons le temps pour Dieu. Prenons le temps de convivialité, de partage. Les armes avec lesquelles il combat. David a des armes fragiles. Une simple fronde et une pierre. Celles de Goliath sont puissantes. Mais nous ne devons pas voir les choses de cette manière-là. Car nous savons que Dieu, avec une arme comme une fronde, il peut tout faire. Les combats sont tellement puissants qu'il nous faut des armes surnaturelles. La Bible parle des armes puissantes dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. C'est les armes de Goliath, le bouclier, les armes en fer. Elles ne sont pas charnelles. Nos armes à nous, elles sont puissantes, mais elles sont spirituelles, elles sont invisibles. Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Vous savez ce que c'est une forteresse ? C'est un mur épais, on ne peut pas le renverser une forteresse. Même avec des armes comme avec Goliath, ce n'est pas possible. Mais par contre, avec les armes de Dieu, ça devient possible. Ce sont les armes puissantes. Pour les combats spirituels, il nous faut les armes spirituelles, sans lesquelles nous sommes sans force. Le combat est trop puissant pour nous. Notre force ne suffira pas. Les armes humaines sont inefficaces. Mais venons chercher les armes puissantes qui sont spirituelles, qui sont les armes que Dieu nous donne, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle, de l'évangile, la cuirasse de la justice. Ce sont des armes spirituelles qui font que nous sommes vainqueurs en Christ. C'est ce que David a. Il a sa fronde, mais il a surtout les armes spirituelles de Dieu qui sont puissantes. Et c'est par ces armes-là qu'il va vaincre Goliath. Enfin, la précision avec laquelle David va lancer sa pierre. Il y a deux éléments. Car David va atteindre précisément le front de l'adversaire. Entre le haut du entre le bas du casque et les yeux, il y a un petit espace seulement. Et pour atteindre cet espace, vraiment, il faut viser juste. C'est pourquoi il y a la part de David qui est d'abord l'entraînement. Il s'est entraîné dans le secret pendant des années. Il a donc entraîner à la fronde pour tirer peut-être sur des objets au début. Ensuite, quand il y avait un loup qui venait attaquer un ours, il continuait à s'entraîner pour les détruire, pour les tuer avec sa fronde, etc. Il s'est entraîné donc, personne ne le voyait. Et puis, il a utilisé l'arme que Dieu lui a demandé, c'est la fronde. Il a rejeté l'armure de Saül. Saül lui a dit, prends mon armure, tu seras mieux protégé. Il a refusé. Il a dit, je pars avec l'arme que Dieu m'a enseignée, c'est la fronde. C'était dérisoire, mais il a obéi. Donc la part de David, c'est d'obéir. C'est l'entraînement dans le secret. C'est l'obéissance à Dieu. Et maintenant, la part de Dieu, c'est de conduire la main de David afin que la pierre arrive au bon endroit. Parce qu'il y a toujours l'assistance de Dieu. Il y a notre part. Nous, on va prier. On va se tenir dans le secret, on va se préparer pour les choses que Dieu nous demande. Ça, c'est la part humaine que nous devons faire. Mais il y a toujours la part de Dieu qui vient mettre un plus, qui vient mettre sa main, qui va ouvrir une porte, qui va permettre une situation pour débloquer une situation bloquée, qui va changer une situation d'échec, qui va nous permettre de sortir de cette impasse. Voilà, il y a la main de Dieu. Et David a eu les deux. Il a fait sa part et il a vu la main de Dieu agir. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Et nous ne devons pas croire que Dieu va tout faire. Oui, il agit énormément. Mais il attend des hommes et des femmes qui se lèvent comme David pour prendre position, pour aller sur le terrain, avec les armes, et qui sont prêts à agir selon les plans de Dieu. David a dû réellement combattre Goliath. Même si Dieu est avec lui, Dieu n'est pas venu devant David pour vaincre Goliath. David a dû se battre. Il a dû utiliser sa fronde. Donc les combats que nous livrons, nous devons les mener. Nous les menons dans la foi. Souvent les combats que nous livrons sont disproportionnés. Les difficultés sont plus grandes. La Bible les compare à des montagnes. Quand je lève les yeux vers les montagnes, je vois la montagne, je dis c'est impossible. D'où me viendra le secours? Mais nous voyons, le secours me vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il y a Dieu au-dessus. Mais nous sommes plus faibles. Comme David, nous sommes moins nombreux, moins bien équipés. L'ennemi déploie sa puissance. Il impressionne, il maudit, il méprise. On a vu ça avec Goliath. Le peuple est maintenu dans la crainte. Alors qu'allons-nous faire? Est-ce que nous serons comme le peuple, comme Saül, qui était dans la crainte? Ou est-ce que nous serons comme David, qui a osé relever le défi, qui a osé confronter le géant? C'est dans la confrontation des géants que nous obtenons les victoires. Ce n'est pas en restant dans le champ de bataille, en regardant de loin, en étant spectateur, en observant. C'est en agissant, comme dit Jésus, allez, faites de toutes les nations des types. C'est en se mettant en mouvement. C'est là que nous remportons des victoires. Alors quand le diable attaque, et il attaquera, souvenez-vous de cette parole, soumettez-vous à Dieu et résistez-lui avec une foi ferme. Nous savons qui est le plus fort. Nous savons que Dieu aura le dernier mot. Et que Jésus est toujours vainqueur. N'en doutez pas, frères et sœurs. L'issue du combat appartient à l'Éternel. C'est une des paroles de David. L'issue du combat, la victoire, appartient à l'Éternel. Nous, on va faire notre part, mais Dieu fera la sienne. Amen. On va prier un instant. Merci pour ta parole, pour David, qui a su relever le combat, le défi dans ce combat. C'était impossible. Il était perdant sur le papier. Mais toi, tu as changé les circonstances et tu as permis que ce jeune David, avec une simple fronde, remporte une victoire décisive. Seigneur, ces enseignements sont là pour nous montrer que c'est possible aujourd'hui et qu'il y a, Seigneur, des défis à relever encore en 2019. Ces défis sont disproportionnés. L'ennemi semble avoir déployé toute sa puissance. Mais nous ne voulons pas regarder à vue humaine. Nous voulons développer comme David cette vision de foi en disant oui, à l'Éternel appartient la victoire. Nous élevons le nom de Jésus sur ces situations. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Notre Dieu est au ciel, il règne, il fait tout ce qu'il veut. Il est tout puissant en toutes circonstances. C'est pourquoi ce matin nous déposons tout fardeau, tout souci. Et nous proclamons que la victoire est entre les mains de notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni.